Nombre 22, verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Au début, ça commence avec quelques messagers, juste disons qui n'ont peut-être pas forcément de prestige. Des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pessor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le sacherai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Donc, Dieu lui fait la grâce, parce qu'il devait déjà le savoir. Vous ne croyez pas qu'il le savait? Mais bien sûr qu'il le savait. Mais Dieu, malgré le fait qu'il le savait, comme pour nous bien souvent, il savait très bien que Balaam n'avait pas à maudire le peuple d'Israël. Mais c'est vrai que là, ça commence, vous voyez, il y a des petits présents qui se présentent. On lui propose donc des avantages, comme on dit aujourd'hui, en nature. Voilà, alors on appelait le devin à l'époque, c'était le prophète qu'on appelait le devin. Ce n'est pas le devin dans le sens de sciences occultes de la divination. Ça commençait déjà, bien sûr, à l'intriguer, cette affaire de recevoir des présents. Donc, Dieu lui pose une question, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? » Est-ce que Dieu savait qui étaient ces gens ? Bien sûr, voilà. Mais Dieu est en train de lui dire, « Tu sais très bien, justement. » Il savait très bien que c'était les ennemis d'Israël. « Tu sais très bien qui sont ces gens. Pourquoi les as-tu reçus ? Pourquoi écoutes-tu leurs propositions ?» Dieu veut commencer à l'éclairer. Car quand on commence à être aveuglé par les bénédictions, je peux vous dire que ça commence comme ça les problèmes. Pourquoi certaines personnes désobéissent à la volonté de Dieu qui est directe ? Parce qu'ils commencent à être intéressés plus par la bénédiction que par la souveraineté de Dieu. On lui propose des bénédictions. Vous savez, il y a plein d'affaires dans le royaume de Dieu, des affaires, des propositions, des opportunités, des possibilités qui se présentent. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais est-ce qu'il y a besoin de prier pour toute chose, dites-moi ? Est-ce qu'un jeune homme doit prier pour savoir si cette jeune fille inconvertie peut devenir sa femme ? Mais non ! Est-ce que vous pensez qu'il faut prier pour certaines choses ? Il y a certaines choses, elles sont évidentes. À partir du moment où une situation va compromettre la volonté de Dieu, c'est même pas la peine de prier. Et ça, je crois qu'il faut être sérieux avec Dieu. Car un des problèmes est celui-ci, c'est qu'on sait ce que la Bible dit et on a le toupet de quand même demander à Dieu si peut-être il n'aurait pas une idée à changer. Non, écoutez, je crois que l'intégrité, ça commence là. Il y a des choses, on sait très bien que Dieu n'en veut pas. Est-ce que si, voilà Seigneur, tu vois, j'ai un grand champ, le tabac ça rapporte bien, la vente du papier tabac, est-ce que vous croyez que Dieu serait d'accord que je m'associe avec quelqu'un qui produirait du tabac ? Est-ce que ça vaut la peine de prier ? Ben c'est même pas la peine. Est-ce que Dieu peut être pour ? Ce n'est pas possible, on pourrait multiplier les exemples. Ce n'est pas la peine de prier pour des choses dont on sait déjà que ça ne peut pas être la volonté de Dieu et il y aurait beaucoup de choses à citer. Je parlais du choix d'un conjoint, et entre autres. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des ministères spéciaux, des pasteurs spécialisés, des anciens, des conseillers, pour rechercher une approbation divine. Quand Dieu nous a révélé dans sa parole ce qu'il veut, ce n'est pas la peine de commencer à le consulter pour savoir s'il ne voudrait pas changer d'avis, comme un jour cette jeune fille qui vivait dans le péché et qui me dit « Moi, je suis sûr que Dieu peut changer d'avis. » J'ai dit « Écoutez, moi, je suis sûr que non. » Vous voyez comme quoi, comment on peut être aveuglé ? Alors la réponse était claire, hein, on l'a lu, le verset 12, « Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Il le savait déjà. Croyez-moi que la communion que cet homme avait avec Dieu ne pouvait pas faire autrement qu'il savait déjà très bien quelle était la pensée de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, comme il le fait avec nous, eh bien, le lui a rappelé, il s'est approché, il lui a révélé. Donc, on voit déjà dans la réponse que Balaam donne le lendemain à ses émissaires. Vous avez vu verset 13, Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays car l'Éternel refuse. » Vous voyez, déjà on sent comme l'enfant qui... Vous voyez, sa maman lui empêchait d'aller jouer au ballon dehors. Bien, mes parents me refusent, je ne comprends pas pourquoi. Quand on commence à penser que Dieu refuse, on commence à perdre la communion avec Dieu. Balaam voyait ça comme une contrainte. Ah, le Seigneur, il m'empêche. Mais vous savez, si Balaam commence à réagir comme ça, l'ennemi, lui, Balak, il ne va pas se décourager. Et vous savez, il y a des chrétiens qui se découragent pour rien. Mais nous voyons dans le royaume des ténèbres certains qui, eux, ne se découragent pas. Vous avez vu la suite ? Regardez au verset 17. Verset 17, le verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Vous voyez, il ne se décourage pas, lui. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent ainsi par le Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras. Imaginez-vous que le voisin vous propose une affaire de vous bénir si vous faites un compromis, mais quand c'est un roi puissant qui vous dit, écoute, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Ça a commencé à le faire réfléchir. Aujourd'hui, ça représenterait des millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, imaginez-vous, qu'est-ce que vous feriez, vous? Alors, ne répondez pas, hein? Ne répondez pas de suite. Mais qu'est-ce que vous feriez? Si on vous disait, voilà, tu vois, si tu fais ça, bon, après, tu demanderas pardon à Dieu, c'est peut-être au préalable. Voilà, mais tu auras ce que tu veux. Tu auras ce que tu veux. Ouais. Verset 18. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Comme Balak. » Alors, il a l'air ferme pour le moment. « Comme Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Est-ce que c'est bien cette réponse? C'est formidable. On sent quelqu'un qui, en tout cas pour le moment, il est vraiment déterminé. On voit qu'il veut obéir à Dieu. Mais, regardez, qu'est-ce qu'il répond? Voilà, il y a une espèce d'ambiguïté au verset 19. « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Est-ce que Dieu ne lui avait pas déjà donné la réponse? Et voyez, cette mentalité, le Seigneur a déjà parlé, mais quand même, on veut encore une réponse. On ne sait jamais si Dieu pouvait changer d'avis. En plus, cette fois-ci, il propose davantage que la première fois. Donc, on ne sait pas, est-ce que Dieu aurait permis ça? Vous voyez, on peut calculer d'une manière très tordue quand on l'est, c'est certain. C'était clair. La parole de Dieu, vous savez, elle est claire. Quand Dieu dit non, c'est non. Ce n'est pas la peine de chercher une fois de plus à penser que Dieu va changer d'avis. Et pourtant, au verset 20, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab, la colère de Dieu, simplement, parce qu'il était parti. Alors là, vous allez me dire que ça commence à nécessiter quelques explications. Vous êtes d'accord? Hein? Parce que Dieu dit non, puis après Dieu va dire oui, et puis quand il dit oui et que Balaam s'en va, la colère va s'enflammer. Alors on peut se poser la question, vous n'êtes pas d'accord? Moi, la première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai dit, tiens, c'est quand même bizarre, cette situation, je savais bien que je ne comprenais pas. Dieu n'a pas changé d'avis. Mais Dieu savait très bien que Balaam, dans son cœur, avait décidé de partir. Et donc, il l'a laissé faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ne vous imaginez pas que Dieu change d'avis. Vous ne connaissez pas Dieu si vous pensez un instant que Dieu peut changer d'avis. C'est un principe spirituel. Vous savez, il y a des lois spirituelles, il y a des comportements spirituels, il y a des choses qui sont faciles à comprendre. Quand nous insistons auprès du Seigneur, alors qu'il nous a clairement montré sa volonté, à force, Dieu nous laissera faire ce que nous voulons. Je parlais d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui serait amouraché d'un inconverti. La parole de Dieu est formelle. Il n'y a rien de... Dieu le dit, je ne veux pas que le fidèle soit avec l'infidèle. Mais je peux vous dire qu'au bout de quelques semaines, la personne aura le feu vert du Seigneur. Vous avez compris ? Elle va trouver le moyen, comme quoi, elle va trouver un bon prétexte pour penser que ceci, que cela, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Je pense dans le livre des Nombres, ils n'étaient pas contents de la manne, ils ont demandé de la viande. Ça, ils ont eu la viande. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Alors, on peut relire un verset quand même, ça vaut la peine. Il faut, vous savez, c'est une étude sur la rébellion et sur la désobéissance. Parce que pour comprendre l'obéissance, je suis sûr qu'il faut parler de la désobéissance. Peut-être que ça vous suivez pas trop, mais je vous assure, c'est vrai. Nombre chapitre 11, verset 10. Alors, il faudrait lire tout le chapitre 11, mais lisez ces chapitres pour comprendre ce qui se passe quand on veut quelque chose. À force, Dieu va nous le donner, mais après, on ne comprend pas. Regardez, Nombre 11, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de la tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Alors, on le voit, Dieu leur donne une chose, et après, sa colère s'enflamme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en vérité, ils sont entrés dans un processus de rébellion, et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Vous comprenez ? C'est ce qui se passe avec Balaam. Dieu, bien sûr, le laisse faire, mais en vérité, il entre dans un processus de rébellion. Et ça, c'est terrible. Et on peut le voir dans plusieurs textes, de la parole de Dieu. C'est terrible. Lorsque on désobéit, on entre sans s'en rendre compte dans un processus de rébellion. Je parlais de ceux qui résistent aux autorités, de ceux qui ne veulent pas se soumettre aux autorités. On l'a lu dimanche, Romains 13. Celui qui résiste à l'autorité s'attire une condamnation sur lui-même. Alors on peut le justifier avec tout un tas de prétextes. On s'attire une condamnation, on ouvre des portes. J'espère qu'on aura le temps de voir quelques exemples pour voir comment on ouvre une porte dès qu'on tolère le péché dans sa vie. Alors, ce mépris des choses de Dieu est terrible. Et on le voit de plus en plus. Parce qu'on n'est pas dans la grossièreté, dans les péchés grossiers, dans la sorcellerie, dans la magie, dans tous ces péchés abominables. On est dans la résistance, dans des choses que l'on veut absolument à tout prix, qui nous paraissent bonnes. Il y a des choses que Dieu veut pour nous, vous le savez, il y a des choses que Dieu veut pour vous. Elles sont préparées. Alors, est-ce que vous voulez faire votre volonté, votre propre volonté, parce que vous pensez que votre volonté, elle est mieux que celle de Dieu ? Il y a des gens qui le pensent. Je sais ce qui est mieux pour moi. Dieu, vous savez, si Dieu vous appelle à rentrer dans le ministère, tiens, je pense, est-ce que c'est bon pour vous ? Si Dieu vous appelle à quelque chose, laissez-moi vous dire que ça sera certainement mieux que ce à quoi vous vous destinez. Et c'est valable dans tout le domaine de la volonté de Dieu. Mais aussi, ce que nous voyons dans ces quatre chapitres, c'est que Dieu, il va nous montrer sa volonté, mais que si nous voulons faire la nôtre, eh bien, il nous laissera faire. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas vous empêcher. Dieu, alors il y a l'histoire de l'ânesse là, qui Dieu va parler trois fois, ça fait presque sourire cette affaire. Vous, non ? Franchement, il y a presque de quoi sourire en lisant l'histoire de cette ânesse. Mais l'enseignement est là. Quelles conséquences et quel prix a payé cet homme de Dieu quand on voit comment il a terminé, quand on voit comment Dieu parle de lui dans le Nouveau Testament, je peux vous dire que ça fait frémir. Rappelez-vous d'une chose, Dieu est souverain, mais il ne vous imposera pas sa volonté. C'est exactement un des enseignements de ces quatre chapitres. Il veut que nous apprenions à lui faire confiance. Ses voies sont parfaites. Je peux vous dire que ses voies sont meilleures que les nôtres. Il attend cette confiance. Ce soir, un des points qui pourrait nous réussir, si nous voulons, comme on l'a chanté, que Dieu règne, il attend que nous lui fassions confiance et que nous obéissions avec joie et non pas contre cœur. Commençons pas à dire comme Balaam, « Ouais, ben Dieu me refuse, il refuse que je vienne avec vous. » Voilà, je ne peux pas, vous voyez ? Vous voyez, quand on commence à penser, ouais, Dieu ne veut pas, c'est triste. Dieu ne veut pas que je fasse ça, je peux pas mentir. On me l'a dit un jour, mais vous pouvez être chrétien, alors vous ne pouvez pas mentir. Je dis, mais si, je peux. Mais je n'ai pas envie. Est-ce qu'on peut mentir ? Mais tant qu'on veut. Mais j'ai dit, mais tu n'as pas compris. J'ai dit, c'est pas que je peux pas mentir, c'est que je ne veux pas mentir. Et je crois qu'il faut commencer à considérer les commandements comme une bénédiction. On va le voir en terminant. Et quand on commence à considérer les commandements comme une restriction, on va mal partir, même si on est un homme excellent comme était cet homme-là. Regardez un exemple. Quand Israël a voulu un roi, vous l'appelez, ils étaient jaloux. Les autres nations avaient un roi, alors eux, ils voulaient un roi. Ils voulaient être comme le monde. Ils voulaient un roi. Samuel leur a dit, mais vous savez, si vous avez un roi, vous ne savez pas ce à quoi vous allez vous attendre. Il va vous falloir donner, tiens, la dîme au roi. Ah, ils ne voulaient pas la donner à Dieu, la dîme. Mais là, ils étaient d'accord. Enfin, si vous lisez tout le contexte, c'est un fait ahurissant. Et Dieu, est-ce que Dieu leur a donné un roi? Eh bien oui. Il leur dit, oui, laisse-les faire. C'est pas moi, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Et vous savez exactement, on a plusieurs exemples, ça vaudrait la peine de les prendre tous les uns derrière les autres, et vous verrez que même si Dieu nous a montré quelque chose, si on s'entête, il nous laissera faire. Ils se sont plaints, et bien Dieu leur a accordé un roi. Le fils prodigue, c'est un peu la même image. Le fils prodigue, il demande à son père l'héritage avant l'heure. C'est ça qu'il voulait en fin de compte. Est-ce qu'il aurait eu l'héritage? Oui, mais lui, voyez, c'est une erreur de jugement. On peut parler d'erreur de jugement. Parce que ce n'était pas forcément mauvais, mais c'est une erreur. Quand on veut certaines choses avant le temps de Dieu. Combien de chrétiens ont perdu la foi parce qu'ils ont voulu à tout prix, moi je veux ça, je veux me marier maintenant, et bien moi la nana, je vais la trouver la nana. Mais on entend ça. La première fille qui me plaira, je la prendrai. Serait-elle païenne? Voilà. Tu ne veux pas me donner une femme? Et bien moi je vais me la trouver. Mais vous la trouverez. Vous la trouverez. Mais ça sera l'histoire du fils prodigue. Vous aurez quelque chose que Dieu ne voulait pas vous donner. Et le résultat, moi je trouve qu'il l'a payé très cher. Très cher. Mais le père l'a laissé partir. On pourrait prendre plusieurs exemples. C'est très intéressant pour que vous compreniez que la volonté de Dieu, elle est très claire, mais que Dieu, nous appellerions-nous Balaam, grand prophète de Dieu, eh bien, il nous laissera choisir. Et soyons sérieux, mes frères et sœurs, parce que nous sommes en plein dans la vie de l'esprit, dans une étude qui nous amène à l'obéissance, car il est hors de question de penser un instant que étudier sur la vie de l'esprit va nous amener dans la confusion. La vie de l'esprit, ça va nous amener à de l'assurance, qui est dit être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de plénitude, être rempli de paix, être rempli de joie, être rempli de certitude. Quand on est rempli de Dieu, on est rempli de tous ces attributs-là, de toutes ces qualités-là. Donc, quelques exemples pour nous montrer, voyez, la folie quand nous nous opposons à la volonté de Dieu. Et combien, hélas, l'ont fait et l'ont payé. Parce que ça, on le paye toujours. Toujours. Sous une forme ou sous une autre. Bon, revenons à Balaam, qui a eu quelques problèmes avec son ânesse. Vous avez lu l'histoire? Vous savez que l'ânesse lui a parlé? Non, mais c'est quelque chose d'hallucinant ce que Dieu a fait. L'histoire ne serait pas si solennelle qu'on pourrait pouffer de rire tellement c'est extraordinaire cette affaire, comment cette ânesse va... Allez, on lit juste pour ceux qui n'ont pas lu. Hein? L'ânesse, alors attention, l'ânesse, elle a vu l'ange de l'Éternel. Alors vous savez dans la Bible, les animaux, ça représente les hommes sans Dieu. Et il y a des gens parfois qui sont païens, qui voient plus certaines choses que les chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est parfois étonné que certains... Vous voyez, dans la parabole l'histoire de Lazare, quand les chiens vont lécher les ulcères, les chiens représentent les païens qui sont capables de faire du bien. C'est ça que ça veut dire. Et que des fois, les chrétiens ne sont même pas capables de faire du bien. Alors, l'ânesse, Dieu, parce que Dieu, c'est quand même Dieu qui a créé les cordes vocales, il peut faire parler une ânesse. Mais en fait, vous le croyez, cette histoire, en fait? Vous êtes sûr que Dieu a bien fait qu'elle soit dans la Bible, cette histoire? Il n'y en a pas qui ont dû dire, mais non, mais la Bible, c'est pas possible, un truc comme ça, c'est impossible. Les ânes qui parlent, quoique, les ânes qui parlent, qui c'est qui parle en ce moment? Alors, l'ange de Dieu, regardez bien, verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois? Moi, je m'imagine, vous voyez, un animal en train de me parler. Je m'imagine, imaginez-vous demain votre chien en train de vous parler. Quand Lucas était petit, je pense à une histoire, c'est une parenthèse, je vous l'ai dit. J'allais tous les matins prier à l'église, on habitait juste à côté, comme quand on était ici. Et en montant, ils étaient en train de prendre le petit déjeuner. Et je dis à Isabelle, tu sais pas, il y a le chien, il m'a dit bonjour. Et Lucas, il est parti en courant dans l'escalier, il est remonté, il dit, moi j'ai dit bonjour, il n'a pas répondu. Tu t'en souviens? Tu ne te souviens pas, tu étais petit, hein, c'est clair. Bon. Mais enfin, là, l'histoire, elle est là. Dieu va quand même permettre cette affaire, comme quoi Dieu est capable d'utiliser bien des choses pour nous arrêter. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Est-ce que nous prenons garde à toutes les fois où Dieu essaie de nous arrêter? Voyez? Alors c'est sûr qu'il va, il va dire j'ai péché au verset 24. Il va pécher. Mais comme Saül qui a dit j'ai péché, voyez, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au devant de moi, sur le chemin. Mais regardez, regardez la suite. Mais maintenant, si tu me désapprouves, eh bien, je m'en retournerai. De leur dire, non, mais la désapprobation, moi je pense qu'il y a un moment qu'il l'a. Voyez dans quel état d'aveuglement il commence à tomber. Dieu va lui montrer de plusieurs manières qu'il le désapprouve. Alors il dit j'ai péché, mais c'est comme Saül. Quand il a dit j'ai péché, c'est parce que il est devant le fait accompli. Donc il est pris sur le fait. Donc il ne peut pas dire autrement. Mais il ne se repent pas parce qu'il a attristé Dieu. Il dit qu'il a péché parce qu'il est pris devant le fait. Et ça, ce n'est pas la repentance, voyez. Quand on est pris le dos au mur, hein, oui c'est vrai j'ai fait ça, bon c'est pas bien, pardon. Mais ça peut être juste du bout des lèvres. Parce que pour arriver à dire, si tu me désapprouves, je retournerai, je crois qu'il aurait dû comprendre, franchement, que Dieu était en train de le désapprouver. Alors reconnaître son péché, c'est une chose, mais le reconnaître que parce qu'on est pris sur le fait, et non pas parce qu'on désobéit à Dieu, ça n'est une autre. Et vous savez, quand on dit pardon, pardon c'est vrai, pardon, je vous ai menti, madame, pardon, je... ben oui, bien sûr, vous... mais... Quand on demande pardon parce qu'on a d'abord compris qu'on a attristé Dieu, on fait attention avant de recommencer. Et pourquoi il y a des gens qui pêchent et qui recommencent et qui disent pardon et que ça leur va très bien? Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que les gens ont vu qu'ils ont péché, mais ils ne réalisent pas que quand on pêche d'abord contre Dieu. C'est pour ça que les pharisiens étaient furieux quand Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés ». Mais pour qui se prend? Mais oui, parce que quand on pêche, on offense Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu d'abord qui doit nous pardonner. Vous comprenez? Quand on ment à quelqu'un, on n'a pas péché contre la personne. On a péché contre la personne et d'abord on a péché contre Dieu. Et ça, ça nous ferait gagner beaucoup de temps si on le réalisait, croyez-moi. Alors, quand on voit le processus dans lequel Balaam se trouve, même si on ne fait que le résumer, on voit un homme en qui la rébellion est déjà dans son cœur. Et c'est un homme de Dieu, qui connaît Dieu. Et pourtant, il commence à être attiré par les présents et l'argent qu'on lui propose. Alors, ce n'est peut-être pas une question pour vous d'argent, ce n'est peut-être pas une question de présent, mais il y a peut-être des choses dans le monde qui vous intéressent, et le diable, il le sait, croyez-moi. Et s'il peut vous y titiller avec ça, il le fera. Alors, on arrive à une autre question. Qu'est-ce que la parole de Dieu pour vous, pour nous? Ce matin, ce soir, nous sommes sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu pour vous? Car nos réactions face à ce que Dieu nous dit en dit long sur notre état de cœur. Oui ou non? La façon dont nous réagissons lorsque nous écoutons la parole de Dieu en dit beaucoup sur l'état de notre cœur. Est-ce que c'est un plaisir la parole de Dieu? Est-ce que c'est un délice pour reprendre les termes du roi David? Ou est-ce que c'est une contrainte, comme c'était en train de le devenir, dans le cœur de ce prophète? Vous savez, la façon dont le serpent présenta la parole de Dieu à Ève va provoquer une guerre terrible dans son cœur. Est-ce que Dieu a réellement dit? La parole de Dieu est devenue dans le cœur de Ève une loi à la place de la vie. Elle aurait dû dire, mais non, je sais très bien que si Dieu n'en veut pas, c'est que ce n'est pas bon. Et elle a considéré le commandement de Dieu comme une contrainte. Qu'est-ce que Dieu nous cache? Qu'est-ce qui nous empêche? Mais attention, si vous en mangez, mais vous serez comme des dieux. Oh, qu'est-ce que Dieu nous prive? Vous voyez, les gens qui commencent à considérer la parole de Dieu comme une contrainte. Si vous en êtes là, vous êtes déjà entré dans un processus de rébellion, parce que vous connaissez le résultat de Ève. Vous savez le résultat. Alors, la parole de Dieu pour vous, qu'est-ce qu'elle est? Parce que le problème, ce n'est pas de juger Ève ou de juger Balaam. Le problème, c'est que nous puissions nous positionner ce soir et dire, mais qu'est-ce qu'elle est la parole de Dieu pour moi? Est-ce que c'est une loi? Il faut que, il ne faut pas que? Ou est-ce que c'est une bénédiction la parole de Dieu? Est-ce que c'est une grâce? Et chaque fois que vous voyez dans la parole de Dieu la rébellion, vous pouvez voir la suite. Croyez-moi, c'est quelque chose de terrible. Et le seul moyen d'échapper à cette rébellion, c'est de considérer la parole de Dieu comme une bénédiction. Est-ce que la parole de Dieu est une bénédiction pour vous? Vous avez vu comment elle s'appelle? Comment Ève va, comment le diable va... Non, on va le lire, c'est le mieux. Genèse 3. Regardez comment elle va considérer ce que Dieu ne veut pas qu'elle touche. C'est quand même... Et c'est là le vrai problème. Quand on considère ce que Dieu ne veut pas que nous touchions comme quelque chose de bon. Genèse chapitre 3, verset 6. Alors il faudrait tout lire, mais vous comprenez bien qu'on n'a pas le temps. Et chaque fois, c'est le même problème. Chaque fois qu'on voit les gens se rebeller, c'est qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Pourtant, Ève, elle avait pas. Elle était dans un bon environnement, Ève. Est-ce qu'elle avait un père alcoolique? Est-ce qu'elle avait... Non. Je veux dire, elle était dans un environnement très, très, très bien. Non? Et il n'y avait pas d'excuses. Vous voyez? Parce que des fois, on dit, oui, vous comprenez, mes parents, est-ce que j'ai vécu? Oui, on justifie sa rébellion. Mais regardez bien. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? Quand on commence à croire que le péché, c'est bon. C'est ça, puisqu'il ne fallait pas qu'elle le touche. Lorsqu'on commence à croire que le péché, c'est agréable. Vous voyez, sans vouloir faire une mauvaise image, mais quand David a vu Bathsheba se baigner en dessous, là-bas, dans la piscine, il a vu quelque chose d'agréable à la vue, sérieusement. Oui ou non? Est-ce qu'il va le payer cher? Et quand on commence à considérer ce que Dieu nous interdit comme quelque chose de bon et d'agréable, laissez-moi vous dire qu'on est entré dans un processus de désobéissance. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit « je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux », voilà, c'est que ce n'est pas bon. Et quand je vois la quantité de chrétiens, bien sûr, ils ne vont pas tomber dans la sorcellerie, je viens d'en parler, les abominations manifestes du royaume du ténèbre, mais je pense qu'il faudrait commencer déjà à nous poser certaines questions. Est-ce que je considère la parole de Dieu comme une loi restrictive ou est-ce que je considère la parole de Dieu comme des bénédictions? Et quand vous lisez David, on pourrait lire, parce que je pensais cet après-midi, pour conclure à ce texte, quand Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on garde les commandements, on ne garde pas les commandements du Seigneur pour l'aimer, mais parce qu'on l'aime, on a envie de garder ses commandements. Ce n'est pas une question, ce ne sont pas les commandements qui doivent primer. C'est parce qu'on l'aime, on va garder ses commandements. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Les gens confondent. Est-ce qu'on fait les choses pour aimer Dieu? Ou est-ce que parce que j'aime Dieu, je le fais? Mais je crois qu'il faut privilégier la relation. Il faut voir les commandements comme une occasion d'enrichir notre relation avec Dieu, et pas comme quelque chose que Dieu nous empêche. David disait, je fais des délices les commandements du Seigneur. Il les percevait comme une bénédiction, même si c'est loupé, on l'a vu, parce qu'il s'est fait piéger, parce qu'il n'était pas à sa place. Vous savez que le soir où il a péché, il aurait dû être à la guerre avec ses officiers, et il est resté à la maison. C'est écrit. Il aurait dû être à la guerre, c'était un homme de guerre. Il aurait dû être, et il n'était pas à sa place. Et quand on n'est pas à notre place, je crois qu'il y en a un qui en profite pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que moi je crois que ce soir on est à notre place. Oui ou non? Je crois qu'on est à notre place quand on vient dans la maison de Dieu parce qu'on a besoin d'être nourri. Alors vous lirez le psaume 119, verset 16, toujours le verset 24, on va lire un quand même. Allez, le verset 47, psaume 119. Verset 47. C'est un sujet extrêmement sérieux. Si nous voulons être baptisés du Saint-Esprit, il va falloir régler le problème de l'obéissance, de la rébellion et de la résistance. Parce que ça marche ensemble, croyez-moi. Je prie pour cela que Dieu m'éclaire. Vous voyez, psaume 119, verset 47. On voit cet homme de Dieu, il a compris. Il a compris. Psaume 119, 47. Je fais mes délices de tes commandements. Voyez le verset 35, « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Puisqu'on est à côté, verset 24, « Tes préceptes font mes délices. » Vous vous rendez compte? Il est dans une perception, lui, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, c'est une occasion d'améliorer la relation avec lui. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous lisez la Bible comme quelque chose, comme une loi, ou comme vous lisez comme un message d'amour qui va vous permettre de mieux connaître Dieu? Qu'est-ce que c'est qui a causé la chute de Lucifer? Vous connaissez le texte, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. C'est la rébellion, c'est la désobéissance. Alors, il y a beaucoup de difficultés à cause de l'ignorance, à cause de la négligence. Vous avez vu le nombre de fois, il dit « je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Alors vous avez dit « mais moi je ne tomberai pas dans les péchés grossiers ». Oui, mais ne parlons pas des gros péchés abominables, parlons des choses claires de la parole de Dieu. Parce que je ne pense pas qu'on tombe forcément tête baissée dans la désobéissance volontairement. Je crois que nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements, comme a pu le faire Balaam. Quand Paul dit aux Corinthiens, j'ai peur que comme Ève a été séduite, j'ai peur que vos cœurs ne se détournent de la simplicité de Christ. Ève a été entraînée dans la désobéissance. Il est dit, Ève a été séduite. Dans 1 Timothée, il est dit que Adam n'a pas été séduit. Ève a été séduite, Adam n'a pas été séduit. Mais lui, c'est pire, parce que lui, il le savait. Il le savait de Dieu lui-même. Ève le savait par Adam. C'est Adam qui le lui a rapporté. Mais Adam était dans une responsabilité beaucoup plus grave. Et par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Chaque fois qu'il y a désobéissance, vous savez, le diable, il va nous faire voir le péché comme quelque chose de bon et agréable. David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est fait piéger. Il n'avait pas toute la révélation comme nous l'avons. Mais quand il a péché, vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la... Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est entré dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut me le... s'en rappeler? Qu'est-ce qui est arrivé à David? Sa fille, il a perdu déjà le fils qu'il a eu avec Bathsheba. Bon, c'est quand même une affaire. Sa fille s'est faite violer par son fils, par un de ses fils, à lui. Vous vous rappelez? Un fils en a assassiné un autre. Son fils préféré, s'est révolté contre lui et a voulu assassiner le roi, son père. Et en fin de compte, ce fils a fini par se faire assassiner à son tour. Et Nathan lui avait dit, tu as péché et tes ennemis, enfin il y a toute une prophétie, la désobéissance, alors je vois que l'heure tourne, la désobéissance, ça ouvre la porte. Alors bien sûr qu'on peut dire, moi j'ai vu des gens, ouais moi c'est pas grave, si un jour je commets l'adultère, c'est pas grave, regardez Dieu, il a pardonné David, j'ai dit, tu vas voir la porte. Vous voyez comment on est léger vraiment avec le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Et voilà. Mais il y a des chrétiens qui s'en vantent presque. Bon, c'est pas grave, si je pêche, Dieu me pardonnera. Est-ce que David a été pardonné? Oui, mais moi je trouve qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il n'ait pas besoin de ce pardon, vous voyez. Et c'est ce que nous devons comprendre. Chaque fois qu'on désobéit, on ouvre la porte au diable. C'est comme ça. Alors ça, des fois ça se passe de suite, la conséquence. Des fois c'est des années après. David, ça n'a pas été de suite. Ça a été presque un an après. Dieu a estimé qu'il avait donné du temps pour se repentir, puisque déjà le gosse était né de la liaison qu'il avait eue. Donc, Dieu au moins a attendu au moins un an, au moins 9 mois, voyez, pour intervenir. Mais une chose est certaine, ce que je veux que nous nous rappelions surtout, c'est que ce qui s'est passé dans l'histoire de Balaam, c'est que Balaam, bon, on n'a pas le temps de tout voir, mais vous lisez ces textes. Vous savez qu'après, on va le lire quand même. Pour ceux qui n'étaient pas là, il faut le lire, juste pour terminer. Vous savez que dans le livre des Nombres, chapitre, on voit que Dieu, il ne peut pas maudire Israël. Il ne peut pas le maudire. Alléluia, c'est extraordinaire. Il ne peut pas venir le maudire. L'autre, il est furieux. Il le met sous un angle pour qu'il ne voit qu'une partie du peuple d'Israël. En fait, il va utiliser un stratagème. Pas possible. Et il est furieux, cet homme. Et il lui propose, bien sûr, toujours de l'enrichir, de le bénir, des millions d'euros. C'est ça qu'il lui propose aujourd'hui, ça serait ça. Et voici au verset 20, regardez, Nombre 23, verset 20, parce que peut-être vous n'étiez pas là dimanche, regardez. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Et la clé, elle est dans le verset 21. « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice dans l'Église. » Vous entendez? L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et le verset 23, c'est la conséquence. Quand il n'y a pas de péché dans une église, regardez les conséquences. L'enchantement ou la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre l'église. Vous entendez? Si on obéit, ils ne peuvent rien faire. La malédiction et la sorcellerie ne pouvaient rien contre Israël tant qu'ils obéissaient à Dieu. Et le Balaam va pas trouver mieux que de pousser des femmes à aller dans le camp des femmes étrangères à coucher avec les Israélites et avec leurs idoles. Et il est tombé 24 000 hommes. Et voyez ce que la sorcellerie, ce que la malédiction de la sorcellerie n'a pas pu faire, leur propre désobéissance l'a fait. Et voyez, nous on est là, la sorcellerie, mais c'est grave la sorcellerie. Bien sûr que c'est grave. Mais notre propre désobéissance ouvre la porte. Alors nous prions, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, règne en moi. Mais obéissons, et Dieu régnera. Ça serait ridicule de chanter « Règne à moi », de chanter avec toutes les émotions qu'on voudra. Je ne suis pas contre, parce que ça peut nous aider à prendre la victoire aussi, de chanter des cantiques profonds. Mais chanter ce cantique et ne pas obéir à Dieu, c'est de l'ignorant, de l'aveuglement, de l'hypocrisie, j'en sais rien. En tous les cas, quoi que ce soit, que ce soit, une chose est sûre, ça ne nous aidera pas. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous avez vu, je n'aperçois pas d'iniquité. La divination ne peut rien contre Israël. C'est écrit, moi je trouve que c'est merveilleux. Alors, obéissons au Seigneur en toutes choses. Est-ce que ça lui plaît? Oui, c'est bon, mais Dieu ne peut pas me le refuser. C'est bon et agréable. Mes frères et sœurs, si Dieu a dit non, ça sera non. Si vous insistez, vous allez croire que Dieu vous dit oui. Quand Dieu dit non, c'est non. Et quand ça s'est passé, la seule solution, vous avez vu, pour que la plaie s'arrête, parce que là en plus, mais tranquille, hein, vous savez le péché. On le voit, dans la fin des temps, il est parlé de que comme Sodome et Gomorre, ils publient le crime sans dissimuler. Avant, les péchés grossiers, tout ça, c'était grave. Où on voyait l'homosexualité, tout ce que vous voulez, la pornographie, c'était grave. Aujourd'hui, quelqu'un sortirait d'une maison close, c'est pas grave. Presque on se moquerait des chrétiens quand ils sortent des églises. Mais quelqu'un qui sort d'un spectacle d'homosexuel, ben non, c'est presque bon chic, bon genre. Et voyez au verset 6, et voici un homme des enfants, chapitre 25, vint et amena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse. Tenez-vous bien, tranquille. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à la tente, à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut exercer la discipline d'une manière très 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 rigide. Il faut obéir de manière radicale. C'est ça que ça veut dire. Et attention à la discipline, il faut la faire de manière très intelligente à l'église. Mais mes frères et sœurs, si nous voulons que la plaie s'arrête, si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, Dieu nous demande une obéissance totale. Totale. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Voilà. Questionnez le Seigneur. Où j'en suis? On n'est pas tous au même niveau spirituel. On a été éclairés, certains dans un domaine, certains dans un autre. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoutez, le Seigneur, il vous éclairera. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Si vous lisez la Bible de tout votre cœur, si vous priez de tout votre cœur, si le Seigneur éclaire-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur ne manquera pas de vous éclairer. Cette plaie s'est arrêtée parce que l'homme a dit maintenant, ça suffit, il faut arrêter de désobéir, il faut arrêter de désobéir à la vue de tout le peuple, il faut qu'on prenne décision et prenons des décisions chacun dans notre vie et Dieu nous bénira. Voulons-nous voir une visitation du Saint-Esprit? Parce que ça serait quand même inquiétant que je vous fasse une trentaine d'études sur la vie de l'Esprit et que nous continuions à désobéir à Dieu, que nous continuions à nous rebeller. Vous avez vu, la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Alors si Dieu est en train de vous montrer quelque chose, ne résistez pas, car je crois que le Saint-Esprit peut montrer un péché à quelqu'un, voyez. Dimanche, on a entendu une prophétie, c'est de quelqu'un qui devait de l'argent. Et ça peut être un obstacle, oui ou non? Eh oui, quand on peut rembourser qu'on ne rembourse pas, c'est un obstacle. Et ainsi de suite, le Seigneur peut vous montrer, peut-être que vous avez volé Dieu. Est-ce que ça peut être un obstacle de voler Dieu? Vous voulez Dieu? Est-ce que peut-être vous avez menti à quelqu'un? Peut-être vous avez sali quelqu'un? Il faut demander pardon. Le Seigneur vous le montrera. Vous croyez que Dieu est assez grand pour nous le montrer? N'allez pas chercher des problèmes s'il n'y en a pas. Mais s'il y en a, le Seigneur vous le montrera. Alors, soyons sérieux avec ces choses, purifions-nous. Nous voulons que Dieu habite au milieu de nous, que Dieu marche au milieu de nous. Je pensais à ce verset pour terminer. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous voulons être transformés. La vie de l'esprit nous transforme, c'est-à-dire qu'il y a un changement progressif. On est transformé, oui, petit à petit, de plus en plus, on va ressembler de plus en plus au Seigneur. Mais la transformation nous parle d'un processus de changement, tandis que la purification, ce n'est pas pareil. Quand on purifie, il n'y a pas de mélange. Purifions-nous, ça veut dire que dans notre cœur, il n'y a pas de mélange. On n'est pas mélangé avec le monde. Quand on se purifie, il n'y a que les choses de Dieu dans notre vie. Après, on a besoin de transformation, oui ou non ? Est-ce que vous ressentez le besoin d'être transformé? Mais moi, oui, le premier. Et je veux travailler à cette transformation afin que Christ soit formé à moi de plus en plus. Mais faisons attention, ne mélangeons pas les choses. Je l'expliquerai quand on reviendra sur la vie de l'esprit. En tous les cas, il me semble qu'il faut conjuguer la vie de l'esprit à l'obéissance plus que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. On ferme les yeux quelques instants. Voilà, on répond à cette prédication. On prend quelques instants. J'aime simplement... Vous étiez d'accord avec ce cantique, règne en moi. Alors, si vous voulez continuer à la chanter, c'est bien. Mais vous n'aurez pas besoin de le chanter si vous obéissez. Je peux vous le promettre, si vous obéissez, Dieu règnera. C'est même pas la peine. Alors, il est faux ces cantiques. La preuve, c'est que ça nous permet d'expliquer ce que c'est l'obéissance. Et on a bien fait de le chanter. Mais quelle folie, quel aveuglement de chanter des cantiques, je reconnais ta royauté. Est-ce que Balaam pouvait le chanter le jour où il est parti? Non. Et pourtant, il a béni le peuple de Dieu. Mais il devenait rebelle. Il a ouvert la porte, il est taxé dans le Nouveau Testament des hommes qui entraînent les hommes à l'enfer. Il parle de l'égarement de Balaam. C'est lui qui a donné l'idée à Balak de faire en sorte que les femmes aillent coucher avec les soldats. Vous vous rendez compte, cet homme de Dieu, ah, il en a eu une bonne idée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde de proposer des choses pour plaire aux chrétiens, par intérêt. Gardons la parole de Dieu et le Seigneur nous bénira. Seigneur Jésus, tu savais qui viendrait ce soir dans ce lieu de culte. Tu sais tous ceux qui dans cette assemblée soupire après des temps de visitation du Saint-Esprit. Tu vois, Seigneur, ceux qui soupirent après le réveil, qui veulent voir la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Tu es un Dieu de vie, tes paroles sont esprit et vie. Là où tu marches, là où tu partais, là où tu agissais, la vie de Dieu était communiquée. Nous voulons voir ta vie se manifester, Seigneur. Et nous voyons bien que chaque acte de désobéissance, quel que soit l'homme, ouvre la porte au royaume des ténèbres. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois à cause de notre aveuglement dû aux ruses de l'ennemi. Pardonne-nous pour toutes les fois à cause de l'ignorance, de la négligence, d'un manque de connaissance. Nous sommes tombés dans les pièges. Nous n'avons pas soupçonné combien l'ennemi était rusé. Seigneur, pardonne-nous. Si Balaam s'est fait piéger, si David s'est piégé, comment pourrions-nous passer à côté? Alors nous voulons méditer ta parole. Seigneur, tu veux bénir cette église. Oui, tu veux régner en nous, régner en moi. Seigneur, que cette assemblée développe cette piété profonde. Oui, Seigneur, nous le croyons, que tu demandes d'abord l'obéissance et la soumission. Guide-nous, conduis-nous pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.